Véroa Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 7 décembre 2022, en direct de Washington et de Ressa Sibulia. Les titres pour commencer, Mondial 2022, liesse populaire à Casablanca et à Doha, les Marocains fiers pour l'Afrique et le monde arabe. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko confronté hier à Hadi Sarr, celle qu'il a accusée de viol. En RDC, violent combat entre plusieurs groupes armés et le M23 qui se dit prêt à amorcer un retrait. En Éthiopie, la capitale du Tigré reconnectée au réseau électrique national après un an de coupure. En Somalie voisine, un bastion stratégique des Chebabs repris par les forces gouvernementales. Les démocrates renforcent leur position au Sénat ici aux États-Unis après la victoire de leur candidat en Géorgie. Le président chinois Xi Jinping en Arabie Saoudite ce mercredi pour une visite de 3 jours. Tout de suite, le journal de la Coupe du Monde d'Eric Manirakidza. De Casablanca, le temple du foot, à Rabat, la placide capitale du royaume chérifien, explosion de joie hier, mardi, après la qualification historique de l'équipe nationale marocaine en quart de finale du mondial, aux dépens de l'Espagne, Eric.
En sortant d'Espagne, le Maroc, séduisant depuis le début du tournoi, évite une répétition des scénarios de 2018 ou 2006, quand les quarts de finale avaient tourné au duel Europe-Amérique du Sud. Notre consultant sportif Amine Birouk, que se trouve à Doha, y décrit ce duel épique qui a pris des allures de derby.
Dans l'histoire du football marocain, il y aura certainement un avant 6 décembre 2022 et un après. Ce mardi, au stade de la Cité de l'Éducation de Doha, les 40 000 supporters des Lions de l'Atlas ont retenu leur souffle pendant 120 minutes devant les assauts répétés des joueurs de l'Espagne. Le 0-0 initial obligeait les acteurs de ce match à disputer les prolongations. Les tirs au but allaient déterminer le sort de ce match couperé. C'était le moment choisi par le portier marocain Yassine Bono pour arborer sa cape de Superman et ainsi arrêter les 3 tentatives ibériques. En face, Sabiri, Ziyech et surtout Achraf Hakimi envoyaient le royaume chérifien au paradis des quarts de finale pour la première fois de son histoire. Une histoire que la bande à Régrègue lui souhaite continuer à écrire avec comme objectif samedi des retrouvailles avec le Portugal. Depuis Doha au Qatar, Amine Birouk pour la VO Afrique.
À Rabat, au coup de sifflet final, des milliers de fans ont envahi la prestigieuse avenue Mohamed V dans une atmosphère bon enfant. Les Lions de l'Atlas deviennent le 4e quart de finaliste du continent après le Cameroun en 1990, le Sénégal 2002 et le Ghana 2010. Un exploit qui a fait rougir les travées du stade Education City à 90% marocaine pour ce premier mondial dans le monde arabe.
Première fois aussi qu'un pays arabe va au quart de finale. C'est un moment historique contre un adversaire qui n'est pas facile, l'Espagne. C'est exceptionnel, c'est un jour de fête au Maroc, c'est un jour de fête pour tous les Marocains qui se trouvent dans le monde entier. Voilà, félicitations aux joueurs, félicitations à l'entraîneur et félicitations au peuple marocain en général et pour tous les Arabes et vive le Maroc.
Voilà, nous sommes surpris. On ne pense jamais à gagner et à aller en quart de finale. C'est la première fois et je suis tellement heureux que nous vivons ce moment maintenant au Qatar.
Quart de finale, beaucoup de gens n'y croyaient pas. On a terminé premier de la poule avec 7 points. L'Espagne a terminé deuxième. Mais aujourd'hui, on leur a montré qu'avec la détermination et un public incroyable. Et on a poussé l'équipe jusqu'au bout.
Dieu merci, l'équipe du Maroc nous rend heureux et toutes les nations arabes aussi. Nous ne nous attendions pas à obtenir ce succès. Maintenant, nous espérons atteindre la finale, pas la demi-finale.
Pour le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, ces joueurs ont écrit une nouvelle page de l'histoire du football africain.
Wow. Moi, premièrement, avant de répondre, je voudrais dire un grand bravo aux joueurs. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est extraordinaire, dans la débauche d'énergie, dans l'envie de ne pas vouloir perdre ce match, de s'accrocher, parce qu'on est tombé sur une des meilleures équipes au monde, peut-être la meilleure de la compétition en termes de possession. Ils nous ont fait mal, ils nous ont fait courir. On a eu des opportunités. Eux, comme je l'ai dit, ils ont fait du jeu à l'espagnol, de la possession, garder le ballon, ils nous ont beaucoup étiré. Tout le monde s'accroche, tout le monde joue avec des bandages, tout le monde élève son niveau de jeu. Et mentalement, on a réussi à créer un groupe, une famille, et on sent aussi qu'il y a un peuple derrière nous. Et quand vous faites tout ça, vous sentez cette énergie, et ben ça aide pour faire une telle performance.
De fait, les Lions de l'Atlas sont la dernière sélection africaine ou arabe encore en compétition au Qatar. Suivez le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué.
Bonjour. Les Lions de l'Atlas du Maroc ont enfin réussi à passer hier au Qatar le cap des huitièmes de finale de la Coupe du Monde, 36 ans après l'exploit de Mexico 86, où leurs illustres aînés furent injustement stoppés par de futurs finalistes allemands plus réalistes. Mais que ce fut dur. Dans un choc méditerranéen avec l'Espagne voisine, aux allures de derby maghrébin, les Marocains ont laissé au vestiaire leur technique habituelle et proposé aux Espagnols surpris une véritable bataille rangée qui leur a fait oublier leur traditionnel toque ibérique. Enfin, la qualité de l'exécution des pénaltys lors de la séance des tirs au but montre le degré de préparation de cette formation. Pour tout dire, ce Maroc-là est dangereux. Il peut encore faire mal. Le Portugal qui rencontre en quart de finale, dans une parfaite opposition de style, est d'ores et déjà prévenu. À bientôt.
Le Maroc affrontera samedi le Portugal qui a balayé la Suisse 6-1. Et démontrer qu'il pouvait y avoir de la vie et de la joie sans Cristiano Ronaldo.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste de l'actualité, au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a fait face hier mardi à Hadi Sarr, la masseuse qu'il a accusée de viols répétés et de menaces de mort. Cette confrontation, décidée par le doyen des juges d'instruction, a eu lieu au tribunal de Dakar en présence des deux protagonistes qui sont arrivés vers 11h du matin pour ne ressortir du tribunal qu'aux alentours de 20h. Le point avec notre correspondant à Dakar, Sédina Abagué.
Mardi 6 décembre 2022, il est presque 20h devant le très mal éclairé tribunal de Dakar quand Hadi Sarr sort entouré par ses avocats. Elle vient de faire face à son supposé bourreau près de 2 ans après les faits qu'elle lui a imputés. La masseuse qui accuse Ousmane Sonko de viols répétés et de menaces de mort est apparue devant les dizaines de caméras de la presse nationale et internationale pour porter des mots à peine audibles. Pour elle, l'Ousmane Sonko qu'elle connaissait n'est pas celui qu'elle a rencontré dans le bureau du doyen des juges d'instruction. Loin de la timidité de leur cliente, les avocats de la désormais célèbre masseuse ont attaqué Ousmane Sonko pour eux. Ce dernier a biaisé l'esprit de la confrontation en refusant de répondre aux questions du procureur et des avocats de la plaignante. Pour les conseils de l'opposant Ousmane Sonko, cette confrontation a montré les limites et la légèreté de l'accusation. Ils espèrent que le juge d'instruction agira en conséquence. Si les différents avocats et la plaignante se sont présentés devant la presse, l'opposant Ousmane Sonko est arrivé au tribunal et en est reparti par une des portes opposées à l'emplacement réservé aux journalistes. Cependant, le leader du parti PASTEF, les Patriotes, a fait une déclaration dans la nuit en direct sur ses comptes dans les médias sociaux. Il est apparu serré et est revenu sur son audition et les accusations qu'il qualifie de complot depuis le début. C'est Nabaga à Dakar pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, des sources locales ont signalé que de violents affrontements ont opposé mardi dans l'est du pays plusieurs groupes armés à la rébellion du M23 qui s'est par ailleurs déclarée prête à commencer à se désengager et se retirer des zones dont elle s'est emparée ces derniers mois dans le Nord Kivu, comme demandé par le sommet de Luanda du 23 novembre. Selon certaines des mêmes sources, l'armée congolaise a également combattu le M23 dans le courant de la journée au Buiza, à quelques 40 km au nord du chef-lieu provincial de Goma. Mekele, capitale du Tigré, a été reconnectée au réseau électrique national après plus d'un an de coupure en raison de la guerre dans cette région du nord de l'Éthiopie, Michel Joseph.
Le centre de contrôle d'électricité de la ville de Mekele, qui a été déconnecté du réseau électrique national pendant plus d'un an en raison de la guerre, a été reconnecté, a annoncé la compagnie nationale Électricité d'Éthiopie. Le communiqué précise que la ligne Mekele a été connectée au réseau électrique national à la fin des travaux de réparation. Pour le moment, l'accès et les communications au Tigré sont limités ou interdits et il est presque impossible de vérifier de manière indépendante la situation sur le terrain. La région est privée depuis plus d'un an de nombreux services de base comme les télécommunications, les banques ou le carburant. Le gouvernement et les rebelles ont signé le 2 novembre à Pretoria, un accord prévoyant une cessation des hostilités, le retrait et le désarmement des forces tigréennes, le rétablissement de l'autorité fédérale et la réouverture des accès à cette région plongée dans une situation humanitaire catastrophique.
En Somalie voisine, les forces de sécurité somaliennes et des milices alliées ont repris au groupe islamiste Al-Shabaab la ville d'Adanyabal, un point stratégique situé dans le centre du pays. Le groupe djihadiste contrôlait cette localité depuis 6 ans, Jean-Roger Bion.
Mahmoud Hassan Mahmoud, le maire d'Adanyabal, dans la région de Chabelle, a déclaré mardi que l'armée a pris le contrôle de la ville et du district du même nom, sans rencontrer de résistance. Ce bastion des Chebab leur servait de terrain d'entraînement, a affirmé la force de l'Union africaine en Somalie dans un communiqué saluant la prise de la ville qu'elle a soutenue avec ses hélicoptères. Adanyabal a été aussi un nœud logistique pour les islamistes qui combattent depuis 15 ans le gouvernement fédéral soutenu par les troupes de l'Union africaine et des milices. Les frappes de drones américains ont également tué plusieurs membres d'Al-Shabaab. Le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a déclaré une guerre totale contre les Chebab après son élection en mai dernier et il a salué la progression des troupes gouvernementales.
Le président chinois Xi Jinping est en visite en Arabie Saoudite à partir de ce mercredi pour 3 jours. Il s'agit de sa première dans le royaume pétrolier depuis 2016. Abdurrahman Dia.
En plus du prince héritier Mohamed Ben Salman, le président chinois rencontrera également des leaders d'autres pays arabes. La visite de Xi Jinping reflète des relations beaucoup plus profondes développées ces dernières années entre les deux pays, observe Ali Shihabi, un analyste saoudien proche du gouvernement. En tant que premier importateur de pétrole saoudien, la Chine est un partenaire d'une importance cruciale et les relations militaires se sont fortement développées, souligne-t-il, s'attendant à ce qu'un certain nombre d'accords soient signés. Cette visite est suivie de près par les États-Unis, partenaire clé des pays pétroliers du Golfe. Au-delà de l'énergie, les analystes estiment que les dirigeants des deux pays devraient discuter d'accords potentiels qui pourraient permettre aux entreprises chinoises de s'impliquer davantage dans des méga-projets au cœur de la vision 2030 du prince Mohamed. Les accusations de graves violations des droits humains ont envenimé les relations entre Riyad et Washington, un sujet qui ne devrait pas être à l'ordre du jour de la visite du président chinois.
Ici aux États-Unis, le parti du président Joe Biden a conforté mardi sa majorité au Sénat avec la victoire du candidat démocrate Raphaël Warnock en scrutin en Géorgie. M. Biden, à qui l'on prédisait une sévère défaite aux élections de mi-mandat, ressort renforcé de cette séquence électorale. Rosine Mounet, Zéro.
But here's my promise to you, I will walk with you even as I work for you.
Le sénateur Warnock était opposé au républicain Herschel Walker, un protégé de l'ancien président Donald Trump pour le dernier acte de ses mi-mandats. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés en novembre et un deuxième tour avait dû être organisé pour les départager. Outre une majorité de 51 sièges sur 100, cette victoire de Warnock donne des coudées plus franches au parti de M. Biden, qui a gouverné ces 2 dernières années avec une majorité extrêmement tenue, 50 sièges sur 100. Ce nouveau siège permettra entre autres d'exercer une plus grande influence dans des commissions parlementaires essentielles. Avec une éventuelle victoire de Herschel Walker, les républicains espéraient quant à eux s'offrir des pouvoirs de blocage plus larges aux politiques de Joe Biden.
La société immobilière de Donald Trump, la Trump Organization, a été reconnue coupable mardi de fraude fiscale au terme de 4 semaines de procès à New York, où l'ancien président républicain n'était pas lui-même jugé.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En RDC, les sites miniers du Haut-Katanga attirent plusieurs personnes, parmi lesquelles les investisseurs et créateurs d'entreprises et les creuseurs artisanaux. Cependant, la gestion de ces sites ne se fait pas sans difficulté à cause de plusieurs facteurs, dont la présence des hommes en uniforme. Plusieurs sites miniers sont en effet envahis par des militaires, une situation dénoncée par les exploitants artisanaux et la société civile qui pointe de nombreux cas de violation des droits de l'homme. Reportage dans le Haut-Katanga de notre correspondant Alex Kati Kataï.
John est un jeune minier vivant à Lubumbashi. Il prend en charge une centaine de creuseurs artisanaux dans une carrière minière située à 70 km de la ville. En tant que supporter des creuseurs artisanaux, c'est lui qui doit revendre le produit de l'exploitation et partager les gains avec les creuseurs, une activité organisée en coopérative. Cependant, depuis un moment, les exploitants artisanaux se plaignent de la présence des militaires sur les sites miniers.
Ces derniers temps, il y a un problème avec nos militaires. Ce sont les gens qui se sont ingérés dans les mines. Et ils commencent à intimider les gens, ouais, ils commencent même à ravir les concessions d'autrui, les carrières d'autrui. Venez, vous chassez les creuseurs, commencent à imposer les gens, ouais. Ils mettent des barrières partout, c'est selon les codes miniers, ça n'existe pas.
Le Haut-Katanga, très riche en minerais tels que le cuivre et le cobalt, est aussi sous menace des groupes armés locaux. Les Maïmaï Bakatagatanga sont les plus en vue. Bien qu'ils n'étant pas présents dans les sites miniers, leur seule existence constitue un motif de la présence de l'armée dans les sites miniers. Et ce sont les Chinois qui en profitent au détriment des artisanaux, affirment les exploitants.
Quand nous qui avons la coopérative, nous partons installer là-bas la coopérative, avec tous les documents, quand les gens voient que les produits commencent à sortir là-bas, ils viennent s'imposer avec les militaires. C'est-à-dire qu'ils commencent à collaborer avec les militaires pour manger ensemble. Ouais, ça, c'est un deal que nos militaires ici font chaque jour au Haut-Katanga. Ils nous chassent tous pour installer les Chinois là-bas, les étrangers chinois. Ouais, c'est ce qui est encore grave. Et puis, sans documents.
Les ONG locales ont, elles aussi, tiré la sonnette d'alarme sur la présence des militaires dans les zones minières. C'est le cas d'AfriWatch, une ONG basée dans le Haut-Katanga et qui défend les intérêts des créateurs artisanaux. Emmanuel Umpula d'AfriWatch.
Parmi les services de sécurité qui sont cités dans les codes, c'est la police des mines qui est habilitée à amener de l'ordre dans les sites miniers. Donc je pense que c'est tout à fait logique que les citoyens ou les creuseurs fassent confiance à la police des mines et que la police des mines sécurise les sites miniers.
Il y a 4 mois, le gouvernement provincial du Haut-Katanga avait décidé du retrait de tous les militaires des zones minières. Seule la police des mines devrait continuer à sécuriser les carrières. Mais cette décision peine à être respectée. L'ONG Justicia appelle les autorités à prendre leurs responsabilités. Timothée Mbouya de Justicia Icebell.
Nous estimons que les autorités gouvernementales devraient tout mettre en œuvre pour faire exécuter ces mesures, d'autant plus que la candidature de la République démocratique du Congo comme pays membre au principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme est en étude en ce moment au secrétariat général. Mais aussi, pour nous, le retrait des militaires et des policiers va aider à améliorer la situation sur les sites miniers dans les sites environnants, notamment en ce qu'il y aura diminution sensible des violations des droits humains.
L'évacuation des hommes en uniforme des sites miniers est toujours souhaité par les autorités provinciales. Georges Mawina, ministre provincial des mines du Haut-Katanga, espère qu'avec le nouveau leadership au sein de l'armée, les choses pourraient changer dans un avenir proche. Alex Tati Kataï, de retour de Lubumbashi, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, en RDC, à Lubumbashi, évidemment, sur le 102.8 FM.
Le gouvernement camerounais félicite les autorités américaines pour avoir arrêté et inculpé 3 Américains d'origine camerounaise accusés de soutenir la violence séparatiste dans les régions anglophones. Le trio est accusé d'avoir collecté des fonds pour enlever des personnes et utiliser des armes dans un pays étranger. De Yaoundé, un reportage de Moki Edwin Kinzeka. Le récit est de Lionel Gahima.
Le Cameroun s'est dit soulagé par la décision du ministère américain de la justice d'inculper les personnes soupçonnées de soutenir la violence dans les régions anglophones où les forces gouvernementales combattent des groupes séparatistes depuis 5 ans. Pour John Billy Echo, inspecteur général au ministère camerounais des Affaires étrangères, l'arrestation des 3 citoyens américains d'origine camerounaise indique que les États-Unis ont compris que certaines personnes qui soutiennent le conflit séparatiste vivent aux États-Unis.
We remain cautious and vigilant.
Nous restons prudents et vigilants car l'acte d'accusation n'est peut-être que la 3e phase d'un processus judiciaire qui a commencé avec la persistance de notre gouvernement à convaincre les autorités américaines de prendre des mesures contre les soutiens des séparatistes. Nous attendons donc le procès. Il y a beaucoup de conspirations et de complices non accusés aux États-Unis et ailleurs qui n'ont pas été cités dans cet acte d'accusation.
Les avocats camerounais aux États-Unis disent avoir déposé des plaintes contre 200 Camerounais et citoyens américains d'origine camerounaise qui sont soupçonnés d'être complices de la violence séparatiste. Le 28 novembre, le ministère américain de la justice a arrêté et inculpé Claude Chi, Lan Nestor, Langmi et Francis Cheny, 3 citoyens américains d'origine camerounaise âgés d'une 40aine d'années. Les 3 prévenus sont accusés de conspiration visant à fournir un soutien matériel pour l'enlèvement des personnes et l'utilisation d'armes de destruction massive au Cameroun. Le ministère américain de la justice affirme qu'en plus de 350 000 dollars qu'ils ont collectés par le biais des volontaires, les 3 hommes ont conspiré avec d'autres pour enlever les civils au Cameroun et demander une rançon. Dans certains cas, les citoyens américains se sont vus extorquer des rançons pour obtenir la libération de leurs proches kidnappés au Cameroun. Les rançons étaient ensuite transférées aux combattants séparatistes pour financer leurs opérations. Capo Daniel est le porte-parole du conseil de l'un des principaux groupes séparatistes de ce qu'ils appellent l'Ambazonie.
Nous avons examiné le dossier déposé par le procureur des États-Unis. Nous avions précédemment condamné les enlèvements contre rançon et l'utilisation des forces d'Ambazonie à des fins personnelles. Cette guerre reste la principale cause du chaos et de l'émergence de gangs et de cartels criminels qui cherchent à utiliser l'Ambazonie pour légitimer leurs activités criminelles.
Selon le ministère américain de la Justice, si les accusés sont reconnus coupables, ils risquent jusqu'à 15 ans de prison pour les accusations de soutien matériel, 3 ans de prison pour la réception d'argent provenant de rançons et de 20 ans de prison pour blanchiment d'argent. La date de leur procès n'est pas encore connue.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Togo, la problématique de l'agroécologie et des semences paysannes dans les politiques agricoles du pays retient l'attention des acteurs du secteur. Face au rendement moyen des semences traditionnelles dites de ferme, les autorités penchent pour l'utilisation des semences améliorées importées. Ce n'est pas l'avis des organisations d'agriculteurs qui pointent du doigt les limites de ces semences améliorées et les dangers de leur adoption. De Lomé, un reportage de notre correspondant Kossi Wousseau.
Si les autorités du Togo affirment que les OGM ne sont pas présents sur le territoire national, elles sont par contre favorables aux semences améliorées pour booster la production agricole et apporter un gain supplémentaire aux paysans. Essiom Lekomi, directeur des semences agricoles et plants.
Il a été démontré que les semences de ferme ont leurs limites. Les rendements, c'est autour de 0,3-0,5 tonnes à l'hectare. Alors qu'avec les semences de variété améliorées, on peut aller à un minimum de 6 tonnes à l'hectare pour le maïs par exemple. Avec ça, vous voyez que c'est le coût de production sur l'hectare qui est réduit. Et partant, ça veut dire que le paysan gagne plus de l'argent.
Pour Simplice Agbavon, agroécologue, la problématique des semences paysannes ne saurait se réduire à la question de production. De plus, les semences dites améliorées qui ne sont pas produites sur place induisent une certaine dépendance des les agriculteurs.
Si on veut vraiment être souverain alimentairement, contrôler notre système alimentaire, savoir produire, quand je veux produire, s'il n'y a pas de semences, donc je ne peux pas produire alors qu'il pleut. Alors s'il n'y a pas de semences dans les magasins, donc je ne peux pas semer. Mais ça ne va pas. Donc il faudrait que le paysan, à un moment donné, ait ses propres semences et qu'il arrive à vraiment cultiver, à utiliser des techniques qui lui permettent de progresser d'un rendement de 1 tonne à aller à 3 tonnes.
C'est l'homme Aboussi Wetonyon, point focal de la coalition pour la protection du patrimoine génétique africain COPAGEN, estime que la problématique des semences paysannes va au-delà de toutes ces considérations.
Pour nous, les semences paysannes ne sont pas une simple question de semences, mais c'est une question de sécurité et de souveraineté alimentaire. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, laisser les firmes décider de ce que nous devons manger, de comment nous devons manger, avec toutes les conséquences ou les impacts que cela peut avoir sur l'homme et sur son environnement.
Assimaru Sandou Nyasimbe, président de la Fédération nationale des organisations des maraîchers du Togo, demande tout simplement une reconnaissance de leurs semences de ferme qui, selon lui, sont plus vertueuses que celles dites améliorées et qui viennent d'ailleurs.
Ici, nous produisons des semences qui donnent de bons rendements. Il faut que la recherche reconnaisse ces semences-là pour que les producteurs aussi participent.
Un cadre de concertation nationale chargé de faire le plaidoyer auprès des autorités nationales pour la prise en compte de l'agroécologie dans les politiques agricoles vient d'être mise en place. Kossi Oussou, Lomé, pour VOA Afrique.
Le président chinois Xi Jinping effectue à partir de ce mercredi une visite en Arabie Saoudite, sa première dans ce pays pétrolier depuis 2016. Il doit à cette occasion rencontrer également des leaders d'autres pays arabes. Cette visite de Xi en Arabie Saoudite se tient dans un contexte de tension entre Washington et Riyad, alors que les appétits de Pékin pour le pétrole saoudien ne font pas de mystère. Pour une analyse, Abdulrahman Dia, adjoint à Annapolis dans l'état de Maryland, Jean-François Seznec, politologue, économiste et directeur de Lafayette Group.
À mon avis, c'est une des visites les plus importantes qu'il y ait avec le Moyen-Orient en ce moment, parce que la Chine est en train d'essayer de remplacer un petit peu l'importance des États-Unis dans le Golfe, et ils font des efforts vraiment gigantesques pour réussir à augmenter leur part de marché, qui est déjà la plus importante, et aussi pour probablement pour avoir une importance politique de plus en plus importante dans la région.
La Chine, qui devient un grand pays de consommation, qui cherche à sécuriser l'approvisionnement de son marché, mais aussi l'Arabie Saoudite, allié traditionnel des États-Unis, qui se rapproche non seulement de la Russie, mais aussi de la Chine. Comment est-ce que tout cela peut être interprété du côté de Washington?
Eh bien, je pense que Washington doit interpréter ça de façon assez négative, au sens où la visite de Xi est en fait une visite contre l'Amérique, hein, contre les États-Unis, parce que la Chine est déjà le principal importateur de produits saoudiens, non seulement du pétrole, mais de pétrochimie, etc. Et la Chine est aussi le principal fournisseur de l'Arabie Saoudite. La seule chose que les États-Unis offrent maintenant à l'Arabie Saoudite, c'est très important bien sûr, c'est la sécurité contre l'Iran. Mais autrement, la Chine, petit à petit, commence à remplacer les États-Unis sur la région.
Est-ce que tout cela pourrait pousser Washington à assouplir un peu sa position sur certaines questions, comme les droits de l'homme, point de friction entre Washington et Riyad?
Ah oui, à mon avis, les États-Unis ont peu de moyens, un peu de chance de changer l'attitude de l'Arabie Saoudite si les États-Unis ne changent pas sa politique vis-à-vis des droits de l'homme, c'est sûr. Et tant que ça n'aura pas lieu, effectivement, la Chine va continuer à se développer le plus possible.
Et sur le plan domestique, est-ce que tout cela pourrait pousser peut-être à l'autorisation de plus de forages pétroliers aux États-Unis, une perspective qui n'enchante pas trop les progressistes non plus?
Oui, effectivement, mais je pense qu'on est déjà un des plus gros producteurs mondiaux, sinon le plus gros producteur mondial de pétrole. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment produire facilement à coût acceptable plus de pétrole que maintenant. Donc je ne pense pas que ça changera énormément.
C'était l'économiste Jean-François Seznec. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sevudia, à la mise en onde de Michel Joseph, à la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.